Alors, les progrès en réanimation pédiatrique ou néonatale au cours des dernières années, ils sont assez nombreux. Ils tiennent avant tout à l'amélioration des technologies d'assistance et respiratoire et un petit peu moins circulatoire. Et puis, ils tiennent, au moins pour la néonatologie, mais ça fait plus de 10 ans, à un progrès considérable qui a été l'introduction des surfactants artificiels puis naturels qui a complètement transformé une pathologie respiratoire néonatale qui était beaucoup plus sévère auparavant. Globalement, bien qu'on ne possède pas beaucoup de chiffres, on ne peut pas dire que la mortalité a diminué, mais que le profil des malades a changé au fil du temps. Je crois que c'est la même chose en réanimation adulte d'ailleurs, au moins en tranche d'âge. Nous, ce n'est pas les tranches d'âge, mais on a beaucoup plus de malades qui font partie de cohortes de maladies chroniques et qui ont donc, dans notre jargon, ce qu'on appelle une comorbidité dès leur admission en réanimation. Et c'est plus de la moitié d'entre eux. 60% dans une étude française récente montre que, il y a finalement moins d'un enfant sur deux qui arrive, si je puis dire, vierge, avant la maladie aiguë qui l'a conduit en réanimation. Les dilemmes éthiques qu'on peut être amené à rencontrer en réanimation sont effectivement très fréquents, avec des situations qui sont assez variables, mais peut-être que la plus fréquente, et pas la plus caricaturale, mais la plus souvent observée, est celle des lésions neurologiques acquises, dont un des exemples est après un arrêt cardiaque réanimé pendant assez longtemps et difficilement récupéré. On va se poser la question de savoir quelles sont les lésions neurologiques induites par cette mauvaise oxygénation cérébrale, et à partir de là, de discuter en intégrant les parents, mais en essayant de ne pas trop leur faire porter le poids de la décision, ce qui est un peu compliqué. On va essayer de trouver un projet qui tienne compte de ces lésions et qui tienne compte de leur acceptation, de leur importance pour s'orienter soit vers une poursuite des traitements, soit au contraire vers une diminution de ces traitements. Alors, il n'y a pas que les lésions neurologiques, mais c'est quand même la grande question qui se pose lorsque l'on discute des limitations des arrêts de traitement. Il y a d'autres situations pour lesquelles l'avenir peut devenir trop lourd, trop difficile, même quelquefois en dehors d'un handicap neurologique, par exemple un enfant qui est définitivement relié à un respirateur artificiel et qui n'a pas d'autonomie respiratoire. C'est effectivement très difficile de trouver un moyen terme entre une décision qui, bien évidemment, doit comporter l'information et donc au moins le non-refus, sinon l'acquiescement des parents à une décision épouvantable, c'est souvent de laisser mourir leur enfant, et puis ne pas leur faire porter trop la charge de cette décision. Alors, on dit que on doit s'efforcer d'informer les parents, de recueillir leurs souhaits avant même ce type de discussion, et ensuite de bien insister sur le fait que c'est une décision médicale qui intervient au terme d'une discussion collégiale avec un groupe de médecins et de professionnels paramédicaux, infirmières et soignantes, psychologues, psychiatres ou autres. Mais ceci est un peu factice dans la mesure où quand même, in fine, ces parents à qui on propose une décision qui est la nôtre vont avoir la capacité de dire oui ou de dire non. Donc inévitablement, ils sont impliqués et on ne peut rien y faire. Un vaste sujet est celui de la culpabilité induite éventuellement par ce type d'approche, mais on ne voit pas très bien d'alternative à ce que l'on faisait auparavant et qu'on s'estime plus du tout en capacité de pouvoir faire, qui était finalement, au nom d'un paternalisme plus ou moins dit, des décisions que l'on prenait sans même en informer les parents, donc en leur cachant la réalité des choses. La collégialité, elle a plusieurs raisons. D'une part, c'est la loi qui nous l'impose, mais finalement, la loi ne fait que reprendre un certain nombre d'idées qui étaient déjà émises par un assez grand nombre de réanimateurs avant 2005. La première, c'est qu'effectivement, on se trompe moins quand on est plusieurs que quand on est seul. Ce n'est pas uniquement en termes de décision, c'est aussi avant en termes de collection de l'information, de façon à avoir les informations les plus complètes et les plus diverses possibles, de la part de différentes personnes, les infirmières au premier rang qui sont le plus en contact avec l'enfant et avec ses parents, l'assistante sociale, la psychologue, enfin un petit peu tout le monde, qui ont des compléments d'information avec des approches différentes. Donc ça, c'est d'avoir l'information la plus complète avant de décider. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, certains disent, et je trouve ça assez intéressant, qu'une démarche de décision bien conduite aboutit dans un nombre de cas relativement important à prendre une décision différente de celle que l'on avait dans la tête en rentrant dans la réunion. Et ça montre bien finalement que la discussion de différentes options, y compris de celles auxquelles on n'a pas forcément pensé, apporte une enrichit réellement la discussion. Et puis un autre point important est que la collégialité permet à l'ensemble des professionnels qui agissent autour de l'enfant d'assumer la décision qu'ils ont prise ensemble. Alors la décision, elle est individuelle. Et in fine, c'est le responsable soit du service, soit de l'unité dans laquelle se trouve l'enfant, mais elle est au terme d'une réelle collégialité, ou du moins qui s'efforce d'être réelle, parce que c'est un autre... Notre question. On l'a démarré à propos de cette question-là, c'est-à-dire finalement d'infirmières qui ne supportaient plus le non-dit ou le mensonge vis-à-vis de parents et qui nous ont quelque sorte obligés à nous remettre en cause avec des attitudes qui, quand on le revoit avec 15 ans de recul, sont des attitudes qui nous paraissent difficilement défendables aujourd'hui. Alors, l'initiation, elle est là, et je pense que ça intervient dans... Un nombre de facteurs importants qui sont l'évolution de la société aussi, et pas uniquement le rôle de l'infirmière dans le groupe par rapport à la toute-puissance médicale qu'il pouvait y avoir auparavant. Je crois que c'est vraiment dans une évolution sociale qui fait que... l'information est de plus en plus complète, de plus en plus transparente auprès du malade ou auprès de ses parents. Donc les facteurs sont nombreux certainement, mais l'évolution a été importante depuis maintenant 15 ans. Oui. La loi Leonetti, elle n'a pas été écrite spécifiquement pour l'enfant et encore moins pour le nouveau-né. Certains parents nous le reprochent et nous disent qu'elle ne s'applique pas à cette tranche d'âge-là, ce qui n'est bien sûr pas vrai. Elle a des aspects qui sont propres à l'adulte et qui ne concernent pas l'enfant, mais pour la pédiatrie, c'est bien évidemment les deux parents qui sont responsables de l'enfant et qui vont être les proches à qui on donnera toutes les informations, puis on proposera la décision que l'on a discutée de façon collégiale. La loi Leonetti, globalement, elle exige la collégialité, qui peut être un mot creux comme qui peut être une réalité de terrain. Elle exige la traçabilité dans le dossier de tous les éléments importants, les différents arguments qui ont conduit à une décision d'imitation d'arrêt de traitement. Elle exige aussi la présence d'un tiers extérieur médecin, ce qu'on appelle le consultant, qui n'a pas de lien hiérarchique avec le chef de service et qui est un petit peu le témoin de la société, si je puis dire, évitant que l'on prenne des décisions dans un groupe qui est un peu à pensée unique, ce qui est tout à fait possible en effet. Alors, ce consultant, la loi ne l'a pas bien précisé et les textes du Conseil de l'Ordre non plus. On peut le voir comme simplement un élément qui s'assure que les procédures sont respectées. On peut aussi le voir comme un élément qui enrichit, qui ajoute à la collégialité. C'est un petit peu ce qu'on essaie de faire. Et globalement, mais les approches peuvent être tout à fait différentes d'un service à l'autre, on essaie de prendre comme consultant un médecin de soins palliatifs dans la mesure où il a une approche... et une connaissance et des lois et des questions, des formulations éthiques plus claires quelquefois qu'on ne peut être amené à les discuter nous-mêmes, qui peut nous aider à voir clair ou à proposer des options différentes qui proviennent de la culture palliative et qu'on essaie effectivement d'introduire, de façon modeste, mais d'introduire en réanimation. Compte tenu du nombre de décisions que l'on a par an et du temps que chaque discussion prend, plus d'une heure en général, il serait bien difficile d'avoir en permanence, souvent sans avoir un délai d'information, de mise en place bien important auparavant, d'avoir toujours la même personne présente. Aujourd'hui, toutes les décisions de ce type-là ne sont pas prises avec un consultant, mais la majorité d'entre elles le sont. Ça peut être aussi un consultant qui agit en quelque sorte comme garant des droits de l'enfant lorsqu'il s'agit par exemple d'un handicap important. Ça peut être un neurologue ou un médecin ayant une compétence particulière dans la prise en charge de son handicap qui vient comme invité à ce type de réunion discuter avec nous. Les discussions, les décisions de limitation de traitement sont effectivement psychologiquement très lourdes à supporter, notamment par les infirmières et les aides-soignantes qui sont au premier rang de l'application de cette décision qui va souvent, le plus souvent, se traduire par le décès de l'enfant. Si c'est un retrait de ventilateur, si c'est une décision de ne pas entreprendre un traitement, il y a quand même un certain nombre d'enfants qui survivent car leur évolution naturelle est finalement favorable, on n'a pas à se poser cette question-là, ou du moins n'a pas à la décider. Comment essayer de rendre les choses, sinon légères, du moins les moins lourdes possibles? La première chose est probablement la réalité de cette collégialité, c'est-à-dire que mettre des gens autour d'une table, ça peut être assez factice finalement, avec un poids de la hiérarchie ou de l'idée dominante retenue. Il est difficile pour une infirmière ou pour une soignante de s'opposer ou de dire qu'elle n'est pas d'accord et de proposer autre chose. Donc c'est une certaine liberté de parole qui n'est pas si facile que cela, et même quand on croit la donner, qui n'est pas prise par tout le monde, notamment par les aides-soignantes, qui n'osent pas souvent prendre la parole, même dans un groupe où elles connaissent chacun. Au-delà de ça, bien sûr, ça ne suffit pas, mais quand même, le fait d'avoir rompu avec les pratiques antérieures et de ne pas mettre les infirmières dans le mensonge et finalement avec un discours qui falsifie la réalité de ce qui va se passer, a quand même beaucoup soulagé ce qui était pour elle un poids insoutenable, inacceptable. Alors au-delà de ça, il est vrai que expliquer, informer du pourquoi on le fait et comment on va le faire, que le médecin soit présent avec l'infirmière dans la chambre est un point également très important et pour les parents et pour l'infirmière ou pour l'aide-soignante. Et puis, grâce à l'aide des psychologues et des psychiatres, on a pu mettre en place, une fois par semaine, un groupe que vous animez, Sylvie, sur la reprise des entretiens difficiles ou de ce que certains ont pu trouver difficile à des degrés divers. On a, au départ, à la demande des infirmières, finalement, avec peu de participation infirmière, essayer de maintenir, depuis maintenant assez longtemps, 7-8 ans, une réunion mensuelle de réflexion sur un cas clinique qui a été jugé soit très difficile ayant posé problème dans le service, soit au contraire intéressant par une innovation à laquelle on n'avait pas pensé auparavant et qu'on souhaite remettre dans d'autres situations. Et on le fait avec effectivement une personne qui a des compétences de discussion éthique, mais qui est complètement extérieure au service et même au milieu hospitalier. Sur le point très précis de l'arrêt de l'alimentation, arrêt des soins, arrêt des traitements, et qu'est-ce que je peux en penser, je ne peux donner que mon opinion parce que la réflexion, même si elle a commencé depuis la loi Leonetti, continue. Est loin d'être abouti. Le groupe de néonatologistes qui est celui qui a finalement le plus réfléchi et le plus appliqué, dans un nombre restreint de situations, mais quand même, cet arrêt de l'alimentation et de la nutrition, avait souhaité mettre de côté cette question spécifique dans les textes qu'ils ont produits, avec un certain nombre de recommandations, jugeant que cette question était pas encore assez réfléchie, avec peut-être pas encore assez de données cliniques, d'observations pour aller plus loin. Grosso modo, ce que l'on peut dire quand même, c'est que cet arrêt de l'alimentation, il a été proposé dans la loi Leonetti essentiellement en pensant aux cancéreux adultes en fin de vie qui ne souhaitent plus s'alimenter, pour lequel l'alimentation est en quelque sorte une violence, puisque c'est la mise en place d'une sonde gastrique ou d'une gastrostomie. Et que probablement, sur le plan physiologique, à ce moment-là de la vie, il semble que c'est plus d'inconvénients que d'avantages et plus d'inconfort que de participer au confort recherché à ce moment-là. Arrêt de l'alimentation et de
Et de l'hydratation.
l'hydratation, car finalement, l'expérience a montré qu'il ne fallait surtout pas faire l'un sans l'autre, et que, en tous les cas, chez le cancéreux adulte en fin de vie, l'arrêt d'hydratation était bénéfique ou en termes de confort pour le sujet, en termes de détresse respiratoire, en termes de râle à la phase agonique ou préagonique. Rien de tout ça a été documenté chez le petit enfant ou chez le nouveau-né. Et finalement, on se retrouve avec une proposition d'arrêt d'hydratation et nutrition dans ces tranches d'âge. Qui est la seule façon de contourner un geste d'euthanasie, d'injection à visée létale tel qu'on a pu le faire auparavant, pour rester dans le cadre de la loi. Mais on se retrouve avec des enfants et des soignants et des parents pour lesquels l'alimentation est quelque chose de profondément naturel, qui n'est pas du tout considéré comme un traitement, même lorsque c'est avec le côté artificiel d'une sonde gastrique, puisque tous les nouveau-nés prématurés dépendent de cette modalité-là. Et une enquête récente que l'on a faite, qui n'est pas encore publiée chez les infirmières de réanimation pédiatrique, montre clairement qu'elles acceptent très majoritairement, comme les médecins encore plus majoritairement, c'est la quasi-totalité des médecins et c'est 80-90% des infirmières, toutes les limitations de traitement lorsqu'elles portent sur l'arrêt de la respiration artificielle, l'arrêt ou ne pas entreprendre une dialyse, une épuration extrarénale ou l'arrêt des catécholamines pour soutenir une situation cardiovasculaire difficile. Elles sont majoritairement, à plus de 50%, pas du tout d'accord avec l'arrêt de l'alimentation et de la nutrition. Ce qui pose au moins la question du bien fondé de cette affirmation de certains zététiciens qui disent qu'il n'y a pas de différence entre arrêt et limitation d'un traitement et qu'il n'y a pas de différence, qu'il s'agit de traitement dans les cas comme dans l'autre, quand il s'agit du retrait d'un respirateur ou du retrait de la nutrition et de l'hydratation. Clairement, les mamans, bien évidemment, n'ont pas du tout cette vision-là, et les infirmières non plus. Donc, je pense qu'on ne peut pas rester sur cette assertion qui était peut-être un peu facile, de dire que c'est un traitement comme les autres et qui peut être arrêté comme les autres. Jean Leonetti, là-dessus, quand il est interrogé ou il a été interrogé par des néonatologistes, n'a pas de réponse toute faite, bien évidemment, et trouve que c'est une situation terriblement difficile. Mais les analogies qu'on a faites avec l'arrêt de l'hydratation et de l'alimentation chez encore une fois, des cancéreux adultes en fin de vie, n'a pas grand-chose à voir avec la situation des nouveau-nés. Ce qui fait que je ne sais pas aujourd'hui, à titre personnel, si c'est une mesure très difficile à appliquer pour les parents, pour les soignants, qui vise uniquement à être dans le cadre légal, et que ce n'est peut-être pas, par rapport à l'éthique, par rapport à la morale, le seul respect de la loi qui doit nous faire réfléchir à quoi faire ou ne pas faire dans ces situations-là. Les avis sont assez divergents, les équipes ont des pratiques assez divergentes et j'espère qu'un groupe de travail pourra reprendre sur cette thématique très précise dans l'année ou les 2 années qui viennent pour nous aider à avancer, parce que c'est vraiment quelque chose de très compliqué et qui ne va pas se régler et que la loi Leonetti a presque introduit, mais en tous les cas qu'elle ne va pas régler, bien évidemment. Il est vrai que même si je dis ne pas être favorable à cette approche-là, cette approche a été utilisée à au moins 3 reprises dans le service au cours de ces 2 dernières années, essentiellement parce que la finalité de la décision était qu'il nous paraissait de notre responsabilité que l'enfant ne survive pas à son séjour en réanimation et que ce serait tout compte fait, de notre point de vue bien sûr, mais en essayant aussi de prendre en compte l'avis des parents, pire de le laisser survivre dans cette situation-là que de le voir mourir. Et à ce moment-là, la seule possibilité que l'on a est soit de transgresser la loi et de provoquer une euthanasie par une injection létale, soit de recourir à cet arrêt de l'hydratation et de l'alimentation. On l'a fait en essayant d'expliquer aux parents et bien sûr en ayant l'accord des parents, ce qui me paraît quelque chose d'assez épouvantable à leur demander, et en arrivant à expliquer et à obtenir également l'accord du personnel infirmier. Ce n'est jamais la 100% du personnel infirmier. Certains préfèrent se retirer, ne pas participer, même s'ils ne sont pas forcément choqués que d'autres dans l'équipe le fassent. Et pour des raisons diverses, il est vrai que par rapport aux représentations que l'on avait de cette situation-là, d'une mort très lente, avec une phase de dénutrition laissant une image corporelle aux proches possiblement épouvantable, on n'a pas trop eu ce problème-là avec des délais de survenue du décès relativement courts, 3 à 5 jours, soit parce que des complications sont intervenues, avec des convulsions notamment, soit parce que l'appréciation de l'inconfort de l'enfant, qui est très sujette à caution dans une situation comme celle-ci, bien évidemment, nous a conduit à augmenter la sédation et finalement à aboutir à une situation qui ne soit ni trop prolongée, ni trop violente pour les parents, pour les soignants. Par rapport à cette décision d'arrêt de limitation, enfin, d'arrêt, pardon, de l'hydratation et de la nutrition, essentiellement chez le nouveau-né, il est vrai que pour beaucoup d'entre nous, du moins certains d'entre nous avec qui j'ai pu discuter, la loi a amené une situation certes plus claire avec un encadrement tout à fait clair interdisant l'euthanasie, mais a compliqué de l'avis de beaucoup une situation qui était antérieurement réfléchie. Avec ce que l'on appelait pudiquement des arrêts de vie chez le nouveau-né, qui étaient effectivement des décès provoqués, qui avaient été justifiés, argumentés, justement pour éviter une trop grande violence auprès des proches et notamment de la famille. La loi Nannetti a modifié cette approche-là en remettant en discussion de façon tout à fait correcte ce point-là et de ne plus admettre comme quelque chose de finalement possible ou aisément réalisable un arrêt de vie chez un nouveau-né, mais a introduit une autre situation avec cette possibilité ou cette tentation de transgresser la loi de temps en temps, en effet, oui. Les arrêts d'alimentation-nutrition à l'échelle d'un pays, je n'ai pas de chiffres, mais je pense qu'ils sont totalement, enfin, très faibles en France aujourd'hui. Mais je ne sais pas de quoi sera fait demain, parce que, en fait, beaucoup d'équipes sont aujourd'hui réticentes à s'engager là-dedans pour les raisons qu'on a évoquées. Et que je partage en grande partie. Si le groupe de réflexion va dans le sens plutôt de poursuivre ces arrêts d'alimentation et nutrition, de peut-être mieux les encadrer en discutant une sédation, les accompagnant, etc., peut-être qu'il y en aura beaucoup plus demain. Mais aujourd'hui, c'est quand même très peu de cas. Question difficile que celle de ce concept du double effet qui effectivement existe dans la loi néolithique, qui a été repris dans cette loi. Alors, le principe du double effet que je connais mal dans ses racines qui sont très anciennes et théologiques, comporte au moins quatre éléments. Mais le plus important est effectivement de dire que l'acte qui est posé a pour objectif premier de soulager le malade. L'exemple classiquement invoqué est celui des morphiniques pour soulager la douleur, quelle que soit la dose, au risque d'induire une dépression respiratoire qui peut effectivement, en l'absence d'assistance respiratoire, précipiter le décès du sujet. Ce qui est curieux, c'est que tous les articles, ils sont assez nombreux, sur ce sujet qui ont été écrits en soins palliatifs adultes, pas en réanimation, où des doses quelquefois phénoménales de morphine étaient utilisées pour soulager les patients, mais étaient utilisées avec une titration, c'est-à-dire en adaptant aux symptômes recueillis et en cherchant à le supprimer, n'a jamais tué personne. Et a même allongé la durée de survie de ces malades-là. Donc il y a quelque chose de très paradoxal à maintenir un peu partout ce concept de double effet qui finalement entretient la peur de la morphine et de son utilisation correcte dans une situation où elle n'a jamais tué personne. L'extension du concept de double effet, c'est autre chose, c'est effectivement d'utiliser ce même concept non plus avec la morphine, mais avec d'autres médicaments, qui peuvent être essentiellement des benzodiazépines, pour imposer une anxiolyse, puis une sédation, puis un sommeil profond, puis une anesthésie générale, en fonction des doses qu'on utilise. Et là, on peut effectivement se poser des questions sur l'intention première et le caractère un peu déguisé de l'acte à travers ce concept de double effet qui devient l'utilisation... si ce n'est perverse, du moins discutable en tous les cas. Au-delà du double effet, toute discussion, toute situation de ce type-là ne peut être que du cas par cas. C'est même plus que ça, c'est du cas par cas à un moment donné, et c'est une situation qui peut être évolutive dans le temps, et qui doit nous conduire à réfléchir aux décisions qu'on a prises, à les modifier, à revenir en arrière en acceptant finalement de reprendre une réanimation parce que le médecin n'est pas du tout infaillible et que même si on s'est mis à plusieurs pour en réfléchir, en discuter, on a pu se tromper. Et donc c'est effectivement en permanence le doute et l'adaptation à chaque situation individuelle qui domine, qui doit dominer. Oui. C'est un problème qui est majeur, celui du turnover infirmier dans les unités de réanimation, qu'elles soient pédiatriques ou adultes. Bien évidemment, on se pose beaucoup la question du lien entre un turnover élevé, c'est-à-dire une durée de vie dans le service des infirmières qui est entre 2 et 3 ans, ce qui est très court, puisqu'on admet qu'une infirmière commence à avoir... une aisance et un bagage complet au bout de 3 ans à peu près de réanimation. Donc c'est quand elles commencent à être très performantes qu'elles s'en vont en moyenne. Bien sûr, dans ces facteurs de mobilité, le poids de ces morts décidées, bien souvent, pèse certainement lourd. On ne sait pas le dire avec précision, ou du moins analyser ce facteur-là parmi d'autres. Il en est d'autres. L'attrait pour un certain nombre d'infirmières d'une formation parisienne pour repartir en province, avec des conditions de vie souvent plus favorables, un temps de transport moins important, etc., joue un rôle. Et beaucoup d'unités de province avec lesquelles on discute montrent une plus grande stabilité de leur personnel infirmier simplement parce que le marché du travail régional est moins important et qu'elles sont plus attachées à cela. Alors, il est vrai aussi que le service de réanimation dont j'ai responsabilité, comme d'autres services de réanimation de la région parisienne, a une mortalité beaucoup plus élevée que d'autres services de réanimation qui ont des cas à traiter peut-être un peu moins compliqués dans un certain nombre de situations, et que la mortalité dans le service est de l'ordre de 14% pour une moyenne nationale qui est à 7%. Alors c'est encore beaucoup, certes, mais c'est quand même deux fois moins. Certains services d'adultes ont exactement le même problème et d'autres l'ont beaucoup moins. On se pose toujours beaucoup de questions par rapport à cela et qu'est-ce que l'on pourrait faire pour améliorer, allonger la durée de vie des infirmières dans le service, des infirmières et des aides-soignantes d'ailleurs,
Durée de vie professionnelle.
durée de vie professionnelle bien évidemment. Et on n'a pas trouvé de solution très clairement au jour d'aujourd'hui. Et les moyens que l'on essaie de mettre en place pour alléger autant que faire se peut ce poids psychique des décès et des modalités de décès n'a, faut bien reconnaître, rien changé à ce jour. J'avais dit un jour que c'était l'omerta la plus complète chez les médecins et que seules les infirmières ou les cadres infirmiers ou les aides-soignants oser parler de leur souffrance psychologique ou morale par rapport à ces situations-là. Je crois que c'est plus tout à fait vrai aujourd'hui, mais c'est peut-être justement par la mise en place d'une structure qui leur permet de parler en petits groupes avec une psychologue que ceci a pu être recueilli. Bon, de façon plus grossière, il est vrai que de temps en temps, quand on voit quelqu'un en fin de semaine fondre en larmes à la fin de la journée, on se dit que ça ne va pas aller si bien que ça, qu'il y aura des problèmes un peu plus importants que ce qu'il nous dit. Mais ça reste encore très peu étudié. Je crois que l'étude sur le retentissement de ces problèmes dans le personnel infirmier, qu'il soit masculin ou féminin, reste à faire. Oui, je ne vais pas vous dire que tout est simple, ça l'est. Ceci dit, c'est quand même, encore une fois, ce n'est pas une situation, une décision individuelle, même si la responsabilité juridique est individuelle, peut-être, enfin sûrement même. Mais les modalités de décision ont été partagées avec toute l'équipe. Ça n'allège pas réellement les conséquences de la décision. C'est quand même un poids partagé, même si ce poids est lourd, il est partagé. C'est pas, je crois que j'ai pas un poids plus lourd sur les épaules que ceux de mes principaux collaborateurs. J'ai commencé mes études de médecine en souhaitant être médecin de campagne, généraliste en province, en campagne. Il se trouve que j'ai fait mes études à Paris parce que j'étais pas dans la région parisienne et je suis venu en région parisienne passer mon bac pour faire mes études de médecine. Et chemin faisant, au cours de mon internat, de mon externat d'abord de mon internat, mes premiers amours ont été vers la cardiologie, adulte et pédiatrique. Et puis, au cours de mon stage d'interne en réanimation pédiatrique, j'ai trouvé plein d'attrait à ce métier, et je n'envisageais absolument pas du tout à l'époque l'importance que pouvait et avait peut-être moins à ce moment-là le problème des décès en réanimation et des décès consentis en réanimation. Et donc, je me suis retrouvé responsable d'un service. C'est pas une vocation précoce du tout, et c'est un peu le hasard de la vie. C'est vrai que c'est pas des sports extrêmes, mais c'est quand même des situations un peu extrêmes, avec une force colossale, parce que on parle des situations dramatiques, mais il n'y a pas que des situations dramatiques. Et qu'elles soient dramatiques ou qu'elles soient tout à fait joyeuses et qu'elles se terminent bien, il se crée des liens qui sont des liens très profonds, puisque c'est la vie et la mort quand même, qui sont irremplaçables avec les proches, entre soignants, quel qu'en soit le grade et le niveau. Et que ça, c'est vrai que c'est des choses assez fondamentales, très vraies, on ne peut pas tricher avec ça, et qui deviennent peut-être un petit peu, sinon une drogue, du moins, quelque chose d'assez particulier, en
Comme si
effet.
c'était...
C'est vrai que c'est aussi un refuge important que d'avoir une maîtrise technique d'un certain nombre de choses. maîtrise que l'on, quelquefois, on cherche à prolonger au-delà du raisonnable, y compris de maîtriser la situation de fin de vie et la mort de l'enfant.